Radio Prague, les informations.
Bonjour, voici les titres. Alerte aux inondations dans le nord et l'est du pays. Pavel Tigrid honoré à Ostrava et en football, dernière journée de la Liga à suspense. Bonjour, comme annoncé en titre, l'Institut tchèque de météorologie a lancé une alerte aux inondations en raison des fortes précipitations de ces derniers jours à partir de ce samedi soir. L'alerte concerne les régions de Moravie du Nord, Zlin, la Moravie du Sud et Olomouc. Jusqu'à lundi matin, il pourrait tomber jusqu'à 90 mm de pluie. Le niveau des rivières dans les régions concernées ont déjà beaucoup augmenté. Les météorologues ont invité les habitants des zones menacées à se préparer à une éventuelle évacuation des vents très forts sont par ailleurs attendus cette fin de semaine. Des dizaines de plaintes ont été déposées contre le parti Top 09, parti de droite mené par Karel Schwarzenberg, à cause d'un mandat postal symbolique envoyé dans le cadre de la campagne électorale aux potentiels électeurs, les invitant à payer une partie de la dette publique. Le chiffre de 121 000 couronnes inscrits sur ces faux mandats a provoqué la panique et l'indignation chez certaines personnes qui n'auraient pas compris qu'il s'agissait d'un tract électoral. La police a ainsi enregistré des dizaines de plaintes de particuliers et ont reçu des centaines d'appels d'urgence à ce sujet. Yana Bobošíková du parti Souveraineté a également annoncé son intention de déposer plainte pour alarmisme et extorsion. L'ancien président Václav Havel, qui a déjà annoncé son soutien au Parti des Verts dans les prochaines élections, a tourné un clip vidéo dans lequel il critique les constructions qui s'étendent au-delà des villes et leur impact sur la réduction des espaces de nature aux abords de ces grandes cités. Ce phénomène m'horripile, j'en parle souvent et je suis content qu'il y ait au moins un parti politique qui partage mes doutes sur cette augmentation de la colonisation humaine, dit-il dans le clip diffusé ce vendredi sur la page internet du Parti des Verts. Une statue de l'ancien émigré tchèque en France et représentant de la dissidence à l'étranger, Pavel Tigrid, a été inaugurée vendredi à Ostrava. Le buste en bronze est l'œuvre du sculpteur Miroslav Rybiček. Ironie de l'histoire, la statue est située à l'emplacement d'une autre statue enlevée en 1990, celle de Lénine. Pavel Tigrid était installé à Paris pendant presque toute la période communiste. Il est le fondateur de la revue Témoignages. Même si aucun film tchèque n'est présenté en compétition officielle du Festival international du film de Cannes, des amateurs du 7e art qui auront fait le déplacement sur la Croisette peuvent découvrir un échantillon de la cinématographie tchèque. Deux jours après l'inauguration de la 63e édition du festival, le pavillon du Centre de cinéma tchèque a été inauguré vendredi à Cannes. Pendant plusieurs jours, de nombreux films seront projetés, dont le dernier opus de Jan Svirak, Cookie revient, qui n'est pas encore sorti en salle en République tchèque. Et en football, c'est avec la dernière journée du championnat tchèque, la Gambrinus Liga, que sera dévoilé le nom du champion. Trois clubs sont en effet encore en lice pour décrocher le titre. C'est le Sparta Prague qui semble en meilleure position avec 59 points et un meilleur goal average, mais une victoire est presque indispensable si le club ne veut pas se faire doubler au dernier moment par son rival d'Ostrava. À un point des deux leaders, la surprise pourrait également venir de Jablonec. Fin du suspense ce soir après les trois matchs. Et puis la météo, samedi, c'est un temps couvert sur toute la République tchèque. La température diurne se situe entre 9 et 13 degrés et nous fêtons, selon le calendrier local, les Jofier Sophie en français. Voilà, c'était le bulletin d'information qu'avait le plaisir de vous présenter Anne-Claire Veluire.
Rencontre littéraire. Václav Richter.
La 16e édition de la foire Le Monde du Livre a été l'occasion d'inviter à Prague l'écrivain français Jean-Marie Blas de Robles, auteur du roman Là où les tigres sont chez eux. Cette œuvre monumentale et labyrinthique qui a d'abord découragé les éditeurs avant de finalement devenir le plus grand succès de son auteur a obtenu en 2008 plusieurs prix littéraires et notamment le prix Médicis. Le roman qui met en contrepoint le XVIIe siècle et notre temps et raconte la vie d'un jésuite de la période baroque ainsi que celle de plusieurs personnages contemporains a été traduit et publié en 2010 en République tchèque. Un des objectifs du passage à Prague de Jean-Marie Blas de Robles était donc de présenter cette œuvre insolite au lecteur tchèque. Et c'est ce qu'il a fait aussi au micro de Radio Prague. Vous êtes né en Afrique, vous avez vécu dans plusieurs pays, vous avez écrit un grand roman qui se passe au Brésil et en Europe et qui s'appelle « Là où les tigres sont chez eux ». Où êtes-vous chez vous ?
Je suis chez moi en France, je suis chez moi dans ma langue en fait. C'est vrai que je suis ce qu'on appelle un pied noir, je suis né dans l'Algérie française. Et que j'ai été rapatrié en même temps que tous les Français d'Algérie dans les années 60, en 61. C'est vrai aussi que, du coup, je suis quelqu'un de la Méditerranée, je suis quelqu'un du pourtour de la Méditerranée, je me sens latin. Et comme je le disais au départ, mon vrai pays, c'est la langue, et en particulier la langue française.
Et vous êtes l'écrivain, mais vous êtes aussi l'archéologue. Est-ce que l'archéologie et la littérature ont quelque chose de commun ? Est-ce qu'elles peuvent se compléter d'une certaine façon ? Dans quelle mesure l'archéologie a influencé votre création littéraire ?
Dans mon cas, l'archéologie est seconde. Je suis d'abord passionné par l'écriture depuis toujours. L'archéologie est venue dans un second temps. C'est une passion parallèle, certes que j'ai poussée très loin. Et donc, à mon avis, elle n'intervient pas dans le processus d'écriture, même si la fascination pour l'origine, qui est celle de l'archéologie, rejoint parfois certaines questions littéraires, ou peut-être même certaines structures narratives, les strates, ce qu'on appelle une stratigraphie en archéologie, peut se plaquer un petit peu sur la littérature. Mais dans mon cas, non, ce sont deux activités parallèles. Et si l'archéologie nourrit un jour un roman ou la littérature de mon côté, ce sera par hasard, comme n'importe quel voyage, n'importe quelle expérience vécue peut nourrir à un moment donné ou l'autre la création.
Votre plus grand roman, Là où les tigres sont chez eux, marie plusieurs récits et se passe en deux époques différentes. On dit que c'est un roman qui est très difficile à résumer. Est-ce qu'il est vraiment irrésumable ?
Je ne crois pas qu'il soit irrésumable. Sinon, si ça n'avait pas été clair dans mon esprit, je n'aurais même pas pu l'écrire. Non, je crois que c'est simplement un roman qui imbrique plusieurs histoires, selon un procédé traditionnel dans la littérature, comme les romans de Potocki ou des choses comme ça, avec un procédé littéraire qui est très utilisé en littérature aussi, qui est celui d'un manuscrit retrouvé. Et ce qui fait peut-être la différence, c'est que bon, le manuscrit qui est retrouvé dans mon roman est un manuscrit censé avoir été écrit au XVIIe siècle, qui raconte l'histoire d'un jésuite qui a réellement existé. Et donc on va suivre, en même temps que la biographie de ce jésuite célèbre, Athanasius Kircher, on va suivre les vies de 4, voire 5 autres personnages, mais dans le Brésil contemporain, avec des destins qui s'entremêlent, qui s'imbriquent, mais qui finissent tous par converger quand même sur la figure de ce fameux jésuite.
Donc le jésuite a quand même existé, vous dites. Et quel est le rapport entre la réalité et la fiction dans le roman ?
Ça n'est que de la fiction. Pour ce qui est de la biographie de ce jésuite, j'en reprends son vrai, toute la chronologie, toutes les œuvres qu'il a pu écrire. Mais ensuite, bien sûr, quand je le fais discuter avec le Bernin ou quand je le fais vivre ou penser, c'est de la fiction complète, puisque on n'a que ces ouvrages en latin. Et c'est surtout que j'ai volontairement perverti l'image biographique de ce jésuite. Mon propos n'était pas de raconter même une biographie romancée de Athanase Kircher, mais au contraire de faire de ce jésuite une figure littéraire, un personnage comme celui de Don Quichotte, un pourfendeur de la raison, lui qui a choisi de sauver l'ancien monde, le monde de la Renaissance, contre l'âge des Lumières qui était en train de naître à son époque.
Est-ce que tous ces récits que vous entremêlez dans votre roman, tous ces personnages que vous présentez dans votre roman, ont quand même quelque chose qu'on pourrait appeler un dénominateur commun ?
Leur seul dénominateur commun, c'est de se poser tous plus ou moins les mêmes questions. Celles que se pose Kircher, celles que se pose tout homme, en fait, au cours de sa vie, c'est la question de l'origine, la question du paradis perdu, la question du sens de l'existence, la question du choix, de l'engagement d'une vie et de la responsabilité donc de ses choix. Mais chacun des personnages y répond différemment, et parce qu'il y répond différemment, se trouve emmené dans des voies différentes et un vécu différent.
Votre roman se passe en deux époques, dans l'époque actuelle, contemporaine, et puis aussi en Europe du XVIIe siècle. Est-ce que c'est aussi une espèce de confrontation, de comparaison, peut-être un parallèle entre les deux époques ?
Absolument, parce que lorsque j'ai commencé à travailler sur Athanasius Kircher, je me suis aperçu que le XVIIe siècle était traversé par la guerre de 30 ans, par une guerre civile, donc un schisme religieux. Il était traversé par une crise des valeurs, une métamorphose des valeurs, justement avec la naissance de la rationalité, de la raison, de l'esprit scientifique qui faisait si peur à Athanasius Kircher. Même chose, l'empire, le royaume de la chrétienté se trouvait ou se pensait acculé par les Ottomans, par l'islam qui était aux portes de la chrétienté à cette époque. Et ça m'a semblé être un miroir parfait de ce qui se passait dans les années 80 en pleine Europe. Il y avait là une guerre civile en plein Kosovo, à Sarajevo, avec le cœur de l'Europe, de la vieille Europe qui était à feu et à sang. Il y avait une crise des grandes idéologies porteuses du communisme, la chute du mur de Berlin, donc crise des grandes valeurs porteuses, en tout cas qui avaient porté une partie de l'Europe vers certains choix. Et même chose, peur irrationnelle de l'islam, de renaissance de cette religion qui faisait peur, qui fait toujours peur aujourd'hui, même si c'est de façon plus ou moins rationnelle. Et donc ce m'a semblé très intéressant d'établir un parallèle entre ce XVIIe siècle et notre siècle, et pour que ça soit encore plus, je sais pas, cohérent, signifiant, de comparer non pas le XVIIe siècle de Kircher avec le siècle d'aujourd'hui en Europe, mais de comparer notre siècle avec le siècle brésilien d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec un pays qui soit un nouveau monde, qui soit un monde où tout est possible, un monde comparable à celui dont rêvait Kircher ou à celui dont nous rêvons tous, celui où on peut tout recommencer, rembobiner, revenir au début, celui où on peut trouver encore des tribus qui n'ont jamais été civilisées, donc un monde de la virginité où la possibilité de commencer réellement quelque chose de nouveau existe.
Nous présenterons la seconde partie de l'entretien avec Jean-Pierre Blas de Robles dans la prochaine édition de cette rubrique, le samedi 22 mai. Cette émission vous a été proposée par Václav Richter. Merci à Irena Viernochová, réalisation technique, et à André Charovec, prise de son.
Le Tchèque du bout de la langue. Guillaume Narguet.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj vám všem milovníkům češtiny Radia Praha.
Vous vous en rappelez peut-être encore, à plusieurs reprises déjà dans cette émission, nous nous sommes intéressés à la légitimité des appellations
Česká republika,
République tchèque et
Česko,
Tchéquie. Pour cette fois, nous vous proposons donc de revenir à l'étude toponymique des lieux tchèques, c'est-à-dire la recherche des origines des noms et appellations géographiques. Plus concrètement, nous allons chercher à savoir pourquoi la Bohème s'appelle Bohème,
Tchéchy,
et pourquoi la capitale s'appelle Prague,
Praha.
Tchéchy krásné, Tchéchy vaše, chladné pivo, horká kaše, Tchéchy vaše překrásné,
La Bohème,
Tchéchie,
en tchèque, et
Böhmen,
en allemand, occupe les deux tiers du territoire actuel de la République tchèque dans sa partie occidentale et centrale. La région est frontalière à l'ouest avec l'Allemagne, au nord-est avec la Pologne et au sud avec l'Autriche. Un peu plus de 6 millions des quelques 10 millions d'habitants que recense la République tchèque vivent en Bohême. La province tire son nom de la tribu celte des Boyens, également appelée Bohémiens, qui résidait sur le territoire tchèque à l'époque de l'ascension de la Rome antique, soit du 3e au 1er siècle avant Jésus-Christ. Mais attention, car cette explication n'est valable que pour les appellations latines
Bohemia
et allemande
Böhmen.
Cette dernière provient d'ailleurs du germain
Bayaimon,
soit
Vlastboyu,
en tchèque et patrie des Boyens en français. Le toponyme tchèque
Tchéchi
est donc lui d'origine différente. La plupart des recherches étymologiques, c'est-à-dire la recherche du sens authentique de l'origine de la filiation de
Tchéchi,
s'accordent pour dire que la région porte son nom à la suite des tribus slaves qui, en provenance de la Slovaquie du sud-est, sont apparues sur les plaines de Moravie et dans le bassin de Bohême à la rupture des 5e et 6e siècles. La tribu slave la plus importante était alors constituée des Tchèques,
Tchéchi,
parfois aussi appelés
Tchéchové,
soit
Tchèque
au singulier. Ce nom
Tchèque
signifierait littéralement un membre de la famille, un homme de notre race, bref, un des nôtres. Peu à peu, cette appellation s'est également imposée aux autres tribus plus faibles qui, ensemble, formaient l'ethnie slave vivant en Bohême et communiquant en tchèque. Ainsi, vers la fin du 9e et au début du 10e siècle, apparaît un État tchèque dont la naissance est liée à celle de la nation. Et si les habitants de Moravie et de Silésie sont aujourd'hui encore appelés Tchèques,
Tchéchi,
en revanche, l'appellation géographique
Tchéchi
resta toujours celle de la région de Bohême. On le constate, selon les langues, il existe donc deux appellations, Bohême et
Tchéchi,
aux origines bien distinctes pour désigner finalement une seule et même région.
Čechy vaše překrásné, vím slunce tak zasné. Čechy vaše překrásné, vím slunce tak zasné.
Concernant Prague,
Praha,
capitale donc de la Bohême,
Tchéchie,
et plus généralement de la Tchéquie,
Česko,
la mention écrite la plus ancienne mentionnant la ville remonte à 965. On en trouve trace dans un rapport de voyage d'un marchand arabe. Ce dernier parle pour la première fois de la ville qu'il appelle
Faraga
ou
Baraga,
comme de la ville la plus riche commercialement, construite de pierre et de chaux. L'origine de l'appellation
Praha
n'a cependant jamais été expliqué de manière totalement satisfaisante. Parmi toutes les théories plus ou moins fantaisistes, la plus crédible est cependant celle selon laquelle la racine du nom
Praha,
soit
Prah,
proviendrait du verbe
prahnout,
c'est-à-dire se dessécher, être sec en français. Le substantif
Praha,
Prague, signifierait donc un endroit sec, séché, brûlé par le soleil, et ce, selon deux possibilités, soit parce que l'emplacement où fut élevé le château fut rendu constructible grâce à la mise à feu de la forêt, soit parce que le château fut construit sur une hauteur sans végétation, brûlée par le soleil.
Praha je krásná, když se den rozedívá, do noci, když se stmívá, nad Vltavou. Je vždycky krásná, za noci plná stínů, ukrytá do jasmínů, tmou mlhavou.
C'est ainsi que prend fin ce tchèque du Bouddha langue consacré donc à la toponymie de la Bohême
Tchéchie
et de Prague.
Praha.
Et en attendant de vous retrouver dès la semaine prochaine, portez-vous du mieux possible.
Mějte se co nejlíp.
Portez le soleil en vous.
Slunce v duši.
Salut et à bientôt.
Zatím ahoj.
Courrier des auditeurs. Magdalena Hrozinková.
Bienvenue à toutes et à tous au courrier des auditeurs. Cette semaine encore, hélas, très peu de lettres de votre part, à l'exception de quelques rapports d'écoute. Nous saluons donc leurs auteurs, en particulier notre auditeur de longue date, Christian Canoën de Loos, en France, que nous avons eu le plaisir d'accueillir à la radio cette semaine. Ensuite, plusieurs rapports d'écoute nous sont venus d'Afrique. Merci donc à Swami Zahra, Abdelkarim Najim et Abdelilah Izou de Maroc, ainsi qu'à Rassem Ben Brahim de Tunisie.
Je suis un auditeur fidèle du service français de Radio Prague et je souhaiterais de tout mon cœur visiter Prague et faire connaissance avec des gens de la Tchéquie.
Nous écrit Nouari Nagmouchi d'Algérie. Son compatriote Bezazel Ferhat Ben Rabah nous écrit depuis Ain Keshera dans le nord du pays.
La réception est super, 5 sur 5. S'il vous plaît, envoyez-moi une carte QSL en souvenir.
Nous avons tout de même reçu un courriel de notre ami Philippe Marsan de Biganos. Cette fois-ci, il ne parle pas de radio, mais de télévision.
J'ai apprécié ce mercredi 5 mai sur la chaîne de télévision Arte une émission évoquant la dissidence en Pologne, Hongrie, Tchécoslovaquie, plusieurs interviews de Václav Havel en langue tchèque et en anglais, également une vue de sa résidence surveillée par les milices communistes, les chiens policiers, images en couleur et plus anciennes en noir et blanc. Un célèbre rendez-vous à la frontière Pologne-Tchécoslovaquie de tous ces dissidents et intellectuels opposés au régime en 1980. 89, la charte 77, la répression, la normalisation, bien sûr les images terribles de Budapest en 1956 et de Pologne et Tchécoslovaquie en 1968. Bref, un reportage passionnant avec un regret de ne pas trop me souvenir des autres noms de ce groupe de courageux femmes et hommes et les signataires de la charte.
Chers amis, auriez-vous la gentillesse de communiquer un message du Radio Club du Perche durant l'émission Le courrier des auditeurs de votre station ? Demande Guy Lelouet. Avec plaisir, voici l'annonce du concours que vous souhaitez diffuser sur Radio Prague.
À l'occasion de la Coupe du Monde 2010, le Radio Club du Perche organise un concours d'écoute des émissions de radiodiffusion. Le concours est ouvert gratuitement à tous les radio-écouteurs à bande de radiodiffusion de 150 kHz à 30 MHz. Le concours est ouvert du 11 juin 2010, 0h, temps universel, au 11 juillet 2010, 24h, temps universel. Pour tout renseignement, écrivez à radioperche@yahoo.fr.
Jusqu'ici, l'information de Guy Lelouet. N'oubliez pas que Radio Prague organise également ce printemps son concours annuel. Voici pour rappel les règles.
Radio Prague, Radio Tchèque 7, annonce la 10e édition de son concours annuel destiné à ses auditeurs. Écrivez-nous quel écrivain tchèque ou quel livre tchèque vous a le plus marqué et pourquoi. L'auteur de la meilleure réponse remportera un séjour à Prague d'une semaine pour deux personnes. Les autres participants recevront des prix de valeur et des souvenirs. Les meilleures réponses seront annoncées dans nos émissions et sur notre site internet www.radio.cz les 26 et 27 juin. Envoyez vos réponses avant le 15 juin 2010 à l'adresse suivante Vinohradská 12 120 99 Prague, République tchèque ou par courriel à l'adresse suivante cr@radio.cz. Le premier prix pour le vainqueur est offert par Park Hotel, sponsor du concours. Park Hotel Prague, un lieu où le confort se marie à l'histoire, à la qualité et au design moderne à proximité du centre de Prague.
Ruce milonek si na kůži měl. Já klidná na venek, tu zbyla, ty šel. Hosté poprvé, ty nad vším si byl. Já bílá bez krve, bez tepena a žil. Hosté brán, posté prázdná a bez jména. A já tě závidím všem, co jsi měl. A já tě závidím všem, co
écouté le courrier des auditeurs de Radio Prague. Passons maintenant à vos questions. Jacques Augustin de Rosny-sous-Bois voudrait savoir, je cite, « Si, faute de mer, les Tchèques sont de fervents pêcheurs en eau douce, faut-il un permis de pêche pour une telle pratique et la qualité de l'eau est-elle bonne dans les rivières tchèques » demande-t-il. Oui, monsieur Augustin, la pêche figure parmi les activités privilégiées des Tchèques. Elle est exercée notamment au pays des étangs, comme on appelle la Bohême du Sud, plus précisément les villes de Třeboň, de Blatná, de Strakonice et de Písek et leurs environs. Les étangs locaux datent du Moyen-Âge et on y élève, à part la carpe, poisson d'eau douce le plus répandu en République tchèque, également la tanche, le brochet, la truite, le cendre, le silure ou l'anguille. Une autre région où la pêche est très prisée, la Moravie du Sud. On organise en République tchèque de nombreux concours de pêche et manifestations destinées au grand public. Par exemple, les 19 et 20 juin prochains auront lieu à Blatná, en Bohême du Sud, les festivités, un événement culinaire, culturel et sportif avec au programme la vente de poissons frais, la dégustation des spécialités locales de pisciculture, des parties de pêche pour petits et grands ainsi qu'une promenade guidée au bord des étangs. Évidemment, pour pratiquer la pêche en République tchèque, vous aurez besoin d'un permis. Et la qualité de l'eau dans les rivières s'est beaucoup améliorée au cours des 20 dernières années, grâce à un vaste réseau de stations d'épuration des eaux usées. Néanmoins, ces rivières tchèques, plutôt petites, restent très polluées, notamment la rivière Bílina, à proximité de l'une des plus importantes usines chimiques du pays, celle de Litvinov, au nord-ouest de la Bohême. C'est la fin de ce courrier des auditeurs. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à la prochaine.
Canos nos puedan sintonizar. A las 18 y 19 horas UTC, los oyentes españoles nos pueden sintonizar por 5.909.445 kHz a través de la repetidora en la Isla Ascensión. Praga transmite a las 20:30 horas UTC para España y América. Platina por los 5.930 kHz. Los oyentes latinoamericanos nos pueden sintonizar a las 23 horas UTC por las frecuencias de 9.440 kHz. A las 0 horas UTC salimos al aire por los 9.445 kHz a través de la repetidora en la Isla Ascensión. A las 0:30 horas UTC los radioescuchas de Centro y Sudamérica nos pueden sintonizar por los 9.790 kHz.